Aujourd'hui, nous accueillons Christian Bouquet, qui vient par ce beau temps, mais en même temps par ce grand froid d'Arcachon. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et nous sommes heureux de vous retrouver, bien sûr, après cette éclipse que nous n'avons voulu ni les uns ni les autres. Et vous nous avez déjà offert 3 conférences, l'une consacrée aux crises africaines, et en particulier à ce que vous avez appelé les zones grises, une autre au développement durable, compatible ou non avec l'économie de marché, et la dernière sur Madagascar, ce pays qui connaît encore aujourd'hui une très grande misère malgré ses ressources. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour une conférence pleine d'actualité, l'Afrique sur les routes de la soie. C'est un grand sujet, un sujet, comme je viens de dire, de grande actualité. Et donc, Monsieur Bouquet, nous allons vous écouter et nous remercier encore d'être là.
Merci. On m'entend bien comme ça ? Parce que l'emblématique Michel m'a installé quelque chose qui était caché sous ma cravate, donc j'ai enlevé la cravate quand même, et maintenant je parle très bien. Je suis donc toujours très très content de venir à Sarlat, d'abord parce que l'équipe de l'UTL est une équipe très sympathique, qui me reçoit toujours de manière très très conviviale. Il y a les, je le dis toujours, chaque année, il y a les plus de cette UTL, qui sont le bulletin, qui est de très grande qualité, qui est probablement le bulletin de meilleure qualité de toutes les UTL que je fréquente, et j'en fréquente beaucoup, puisque, comme je le disais à l'un d'entre vous tout à l'heure, je fais à peu près 25 conférences dans les UTL cette saison, j'en ferai 25. Donc j'en vois beaucoup, je peux comparer. Et il y a aussi, bien sûr, la captation de la conférence par notre ami qui est toujours monté sur une table et qui me fait toujours peur. Et du coup, cette année, j'ai un peu changé mes habitudes, je vais m'asseoir. Comme ça, il n'aura pas besoin de bouger. Sinon, un jour ou l'autre, si on ne lui fournit pas une table derrière, il va tomber. Et puis, il y a cette salle qui est quand même extraordinaire, avec cette cheminée qui me donne l'impression, quand nous sommes ensemble comme ça, surtout au chaud par rapport au froid extérieur, de tenir une sorte de petite conversation au coin du feu, même si il n'y a pas de feu et même s'il n'y a pas Giscard d'Estaing, parce que du temps de Giscard d'Estaing, il y avait des conversations au coin du feu. Donc nous allons aujourd'hui parler d'un sujet grave par rapport au sourire que j'arbore comme ça en introduction, les nouvelles routes de la soie que je vais positionner à égale distance entre le concept de Chine-Afrique qui circule par rapport à la France-Afrique, vous connaissez, qui voulait dire que les relations entre la France et l'Afrique était souvent un petit peu obscure, un petit peu opaque, et marquée surtout par des visées commerciales, purement mercantiles. Et maintenant, on a l'impression, en tout cas c'est ce qui est dit dans ce livre-là, et dans d'autres d'ailleurs, qu'on n'est plus vraiment dans le temps de la France-Afrique, mais de plus en plus dans le temps de la Chine-Afrique. Et je croise finalement cette hypothèse, est-ce qu'on peut vraiment parler de Chine-Afrique ? Avec ce que j'appelle les nouvelles routes de la soie, qui apparaissent assez clairement sur cette carte-là, puisque nous avons en effet, au départ de la Chine ici et de Guangzhou, nous avons des routes à la fois terrestres ici, hein, qu'elles soient rouges, qu'elles soient jaunes, ou qu'elles soient rouges ou qu'elles soient jaunes, elles sont terrestres, ou qu'elles soient bleues, quand ce sont des routes maritimes, qui, de manière évidente sur la carte, hein, et je vais démontrer que la carte n'est pas seulement un artifice, que derrière il y a une réalité, qu'il y a une stratégie extraordinaire de la République populaire de Chine de progressivement recouvrir le monde pour des raisons également commerciales et mercantiles, comme on le disait du temps de la France-Afrique. Alors nous sommes dans une université, et vous êtes habitués à moi, c'est-à-dire que j'en suis désolé, mais c'est le cas, toujours un peu pédagogue, voire pédagogique, pas vraiment pédagogiste, mais je vais essayer d'être clair, et je diviserai mon exposé en 3 grandes parties. D'abord, j'essaierai d'expliquer pourquoi je parle de nouvelle route de la soie. Ensuite, eh bien, j'essaierai de décrire dans un petit exposé d'économie politique la nouvelle ambition planétaire de la Chine. Et enfin, j'en arriverai au cœur du sujet, c'est-à-dire l'Afrique, maillon important des nouvelles routes de la soie. Lorsque vous êtes venu à l'invitation de l'UTL voir cette conférence, assister à cette conférence, vous aviez inévitablement en tête Marco Polo. Parce que Marco Polo, c'est un nom qui est lié aux routes de la soie. Pourquoi ? Parce que au XIIIe et XIVe siècle, lorsqu'il voyageait, eh bien, il avait beaucoup circulé en Asie orientale, hein, et il avait, quand on dessine les routes qu'il avait empruntées, eh bien, il avait quand même sillonné énormément de territoires asiatiques. Il en avait d'ailleurs fait un livre, hein, qui s'appelle soit le devisement du monde, soit le livre des merveilles, hein, ça dépend des éditions, qui était d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, le premier livre de voyage en français. Et pourquoi était-il écrit en français ? Marco Polo ne parlait pas français, mais il l'avait dicté à son compagnon de geôle, parce qu'il était emprisonné à Gênes, vu qu'il était vénitien, et qu'à l'époque, les Génois et les Vénitiens se battaient sans arrêt. Et là, il avait été vaincu, enfin, les Vénitiens avaient été vaincus, donc il était en prison à Gênes, et son compagnon de cellule maîtrisait la langue française et avait écrit son livre en français. Donc, au XIVe siècle, on pouvait déjà, quand on avait accès au livre, lire le récit du voyage de Marco Polo. Mais, Marco Polo n'a jamais parlé de route de la soie. Marco Polo n'est d'ailleurs même pas passé à Samarcande, parce que, pour vous, dans votre esprit, surtout si vous avez voyagé dans ces régions-là, on le faisait ces derniers temps, avant la pandémie, hein, c'était une des destinations qui était proposée par les tours opérateurs, une destination très intéressante d'ailleurs, aller à Samarcande. Pour nous, dans notre imaginaire, les routes de la soie, c'est Samarcande. Eh bien, Marco Polo n'y était jamais passé. Donc, qui est-ce qui a inventé le concept de route de la soie ? Eh bien, c'est cet homme-là, Ferdinand von Richthofen, au XIXe siècle, qui a beaucoup sillonné, lui aussi, l'Asie orientale, et qui a créé le concept de Die Seidenstrasse, si je le prononce bien, et si je me souviens bien de ce que j'ai fait quand je faisais de l'allemand quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune en tout cas, c'est au singulier. Or, il a dessiné, puisque c'est lui qui a dessiné tous ces itinéraires, il était géologue, hein, il a dessiné, semble-t-il, quand même de nombreux chemins qui pourraient laisser entendre qu'il aurait dû parler des routes de la soie, parce qu'il n'y avait pas une sorte de voie unique qui reliait la Chine à l'Europe centrale et occidentale. Il y avait de nombreuses routes. Et par ces routes, qui n'étaient pas donc des routes de la soie, sont arrivées en Europe de multiples progrès, et depuis très longtemps. Alors je me permets de les rappeler parce que la Chine a tout de même une histoire, hein, une très vieille histoire. Et on serait bien inspiré de ne jamais l'oublier quand on commence à accuser les Chinois de tous les maux. Ils ont derrière eux une vaste culture et de très nombreuses inventions. L'une des plus importantes, il y a 6000 ans, 6000 ans avant notre ère même, donc 4000 ans avant notre ère, donc il y a 6000 ans, c'est la domestication du cheval. Ça, ce n'était pas rien. Domestiquer le cheval, ça permet d'avoir un moyen de transport et de communication, déjà, beaucoup plus rapide, à travers les grands espaces, et Dieu sait si la Chine dispose notamment de vastes steppes que les Chinois avaient intérêt à traverser pour diverses raisons, et notamment pour des raisons commerciales. Ce sont également les Chinois qui ont inventé, au début de notre ère, l'arc composite. Un arc composite, c'est un arc dont la flexion, comme vous le voyez ici, est en fait de plusieurs essences de bois qui le rendent plus flexible, plus maniable. Et comme pratiquement dans le même temps, ils ont inventé la poudre, ce sont eux qui ont inventé les premières flèches à poudre. Et les premiers à les utiliser ont été les Anglais, bien sûr, lors de la bataille de Crécy, contre nous. Cette fois déjà, les Anglais se battaient contre nous à armes inégales. Après, bien sûr, nous aussi, on a maîtrisé les flèches à poudre, et puis il nous est arrivé aussi au rugby, par exemple, de les battre. Hein. Mais ça, c'est beaucoup plus récent. Et puis surtout, on aurait pu donc appeler ces routes les routes de la poudre, ou les routes du cheval, ou les routes de l'arc composite, mais on aurait aussi pu les appeler les routes du papier, parce que ce sont bel et bien les Chinois qui ont inventé le papier. Avec des vieux chiffons, des feuilles et des écorces d'arbres, ils ont trouvé la méthode, la bonne formule pour fabriquer du papier qui, très rapidement, s'est révélé bien plus intéressant que le parchemin qu'utilisaient nos lettrés à l'époque. Le parchemin, c'était quand même à partir de la peau de bête. C'était beaucoup plus cher, bien sûr, et c'était difficile à raturer. Les poètes du XIVe, XVe siècle se sont très rapidement convertis au papier parce que c'était plus facile à raturer. Et puis, on a peut-être oublié, mais ils ont inventé aussi l'imprimerie. À peu près 4 siècles avant Gutenberg, ils ont eux aussi eu l'idée de mouler en quelque sorte ou de découper dans du bois puis dans de l'argile des lettres. Alors, vous imaginez l'alphabet chinois, c'est autre chose que le nôtre, de façon à imprimer. C'est pour ça que je vous ai présenté sur cette diapo ce document qui est l'un des premiers documents imprimés par les inventions chinoises. Mais on n'a pas non plus appelé ces routes les routes du papier. On les a appelées les routes de la soie parce que, il y a très longtemps aussi, plusieurs millénaires, ils ont découvert le cocon du bombyx. On raconte qu'un des empereurs avait vu tomber dans sa tasse de thé le cocon d'un bombyx et avait découvert à cette occasion que le fil qu'il y a sur ce cocon est un fil extrêmement solide. Ils ont donc commencé à élever des vers à soie. Puis ils ont inventé le métier à tisser, bien avant nous, et c'est à cette occasion-là qu'ils sont devenus quand même les producteurs exclusifs. Jusqu'au, je crois, 5e ou 6e siècle de notre ère, ils étaient les producteurs et les exportateurs exclusifs de la soie. C'est d'ailleurs ce qui avait fasciné les Romains. Les Romains, quand ils avaient des contacts avec les Chinois, c'était pas très souvent, mais quand ils avaient des contacts avec les Chinois, ils étaient fascinés par cette soie. Donc, la route de la soie, en effet, pourquoi pas ? Mais ces routes, ces Seidenstrasse, qui venaient de Chine, n'apportaient pas que des bonnes nouvelles. Elles en apportaient des mauvaises. Alors celles-ci en étaient de taille et rafraîchies dans vos esprits des souvenirs beaucoup plus récents. Alors là, on était au XIVe siècle, l'arrivée de la grande pestilence, arrivée en droite ligne de Chine. La différence avec le Covid-19, c'est que la grande pestilence a tué entre 30 et 50% de la population européenne en 5 ans. Là, pour le moment, on n'y est pas. Heureusement. Et puis d'ailleurs, la Covid-19 ne vient plus forcément que de Chine. Mais la grande pestilence, c'est-à-dire la peste noire, a été une véritable catastrophe. Regardez comment elle s'est répandue à partir de l'Asie centrale, comme toujours. Alors, avec leurs chevaux, ils parcouraient des grands espaces et ils contaminaient finalement, progressivement, toutes les zones qui sont de plus en plus claires, là, comme on le voit ici, y compris l'Afrique du Nord. C'est dire si un virus peut se déplacer beaucoup plus vite que toute autre chose. Et puis jusque en Europe du Nord, alors on aurait tendance, si on faisait une analyse de cette carte, tendance à dire que plus on allait vers le nord, c'est-à-dire plus il faisait froid et moins le virus se développer, ce qui semble être le contraire de notre virus aujourd'hui, mais enfin, pour le moment, on ne tire pas de conséquences et surtout, on ne fait pas de comparatisme. Donc, vous voyez, il y avait des relations très étroites par lesquelles se développaient les idées des uns, les méthodes des autres, et puis rarement des confrontations armées, d'ailleurs, rarement, parce que l'Europe occidentale et la Chine étaient quand même très éloignées, et puis, c'est dans cette contexte historique, dans cette mémoire historique, qu'en 2013, Xi Jinping a décrété un nouveau slogan qui était la Belt and Road Initiative. Il l'a d'abord appelé la nouvelle route de la soie, il a même dit les nouvelles routes de la soie, mais c'est plus connu dans la littérature scientifique sous le nom de Belt and Road Initiative, ce qui veut dire frontières et routes, lancé en 2013 avec les idéaux suivants, idéogrammes suivants, qui veulent dire un but, un espoir, un rêve. C'est très important de prendre un concept et d'en faire un objectif pour une nation, surtout pour une immense nation, ne serait-ce que pour cimenter le sentiment national. Et ça a été l'un des objectifs de Xi Jinping, que vous voyez ici, dont on peut considérer, même si on a énormément de critiques à formuler à son endroit, que c'est un véritable visionnaire. Il n'est peut-être pas tout seul, mais la stratégie qu'il a mise au point de Belt and Road Initiative, donc des nouvelles routes de la soie, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, avant lui, est-ce qu'il y avait eu des, entre guillemets, visionnaires, ou du moins des hommes politiques, ou du moins des gouvernements ou des pouvoirs qui avaient imaginé de se déployer à l'extérieur de leurs frontières pour tenter de conquérir le monde? Eh bien, oui, il y avait eu, dans la campagne électorale de Kennedy en 1960, ce fameux thème de la nouvelle frontière. Lui, il se contentait plus de la fameuse conquête de l'Ouest qui avait fait des États-Unis ce qu'ils sont aujourd'hui, hein, avec les drames que l'on a connus, parce qu'il a quand même fallu conquérir tout ce Grand Ouest et repousser sans cesse la frontière des régions colonisées vers l'Ouest. Mais Kennedy imaginait qu'il pouvait repousser la frontière plus loin que celle des États-Unis. C'était, comme je l'ai mis là en sous-titre, peut-être une préfiguration de la mondialisation libérale. C'est-à-dire que Kennedy avait compris que le capitalisme, son modèle économique, que le capitalisme devait recouvrir le monde, sinon n'avait pas de chance de réussir. Un petit peu comme le communisme d'ailleurs. Enfin, c'était la fameuse controverse entre Trotsky et les autres, mais le communisme dans un seul pays, disait-on, n'avait pas d'avenir. Eh bien là, le capitalisme dans un seul pays n'a pas non plus vraiment d'avenir. En tout cas, on ne saura pas si Kennedy avait cette idée en tête lorsqu'il a milité lors de sa campagne électorale. Il ne l'a pas ressorti après, hein, le thème de la nouvelle frontière, mais peut-être bien que oui. Et puis, une autre puissance s'est lancée aussi dans ce qu'on a appelé le panturquisme. On a un peu tendance, de la même manière que pour la Chine, hein, à sous-estimer les racines culturelles et historiques de la Turquie. On oublie, je crois que certains d'entre vous écoutent peut-être France Culture et notamment l'ont écouté ce matin à 9h, je crois, l'émission de Xavier Mauduit qui parlait de l'indépendance de la Grèce, parce qu'on va fêter bientôt le deuxième centenaire de l'indépendance de la Grèce, 1821. Alors, ceux qui n'ont pas entendu France Culture disent « Ah bon, la Grèce n'a été indépendante qu'en 1821 ?» Oui, et avant, eh ben avant, elle était ottomane. Et elle avait été ottomane pendant 4 siècles. 4 siècles. Donc vous voyez que l'influence turque en Grèce a duré infiniment plus longtemps que l'influence coloniale de la France en Afrique, par exemple. Hein. 4 siècles de présence ottomane. Eh bien, les Turcs se sont souvenus en 1992, c'était il n'y a pas si longtemps, que ils étaient d'origine Ouïghour. Alors les Ouïghours, vous en avez aussi entendu parler, c'est cette minorité musulmane qui se trouve à l'ouest de la Chine, ici, hein, dans le Xinjiang, qui était autrefois le Turkestan oriental et qui est le berceau de la culture turque. Donc ils ont envisagé en 1992, et pourquoi 1992 ? Parce que l'Empire soviétique venait de s'effondrer. Donc toutes les anciennes pas possession, mais toutes les anciennes terres qui avaient une culture ottomane, et notamment le Turkestan oriental, mais aussi le Turkestan occidental, qui s'est transformé en Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc., etc., eh bien, étaient dans le viseur des autorités turques, qui, à ce moment-là, ont commencé à mettre en place une espèce de toile d'araignée, notamment avec comme fer de lance Turkish Airlines, hein, donc que vous voyez sur certains tarmacs si vous voyagez par avion, et qui a quasiment recouvert le monde depuis. Hein, Turkish Airlines est une compagnie grâce à laquelle on peut aller pratiquement partout dans le monde. Et leur idée, c'était de se réimplanter dans cette région-là. Donc, l'idée de se déployer à l'extérieur de ses frontières, qui est une idée chinoise maintenant, a été évoquée à un certain moment, soit par les Américains, soit par les Turcs, et puis je vous entends murmurer, même si je suis un petit peu sourd, vous allez dire « et lui ?» Eh bien oui, hein, le fameux Lebensraum d'Adolf Hitler, c'était la conquête de l'espace vital. Hein, l'espace vital, c'est la traduction, me semble-t-il, du Lebensraum. Il avait bel et bien l'intention de déborder de ses frontières et de recouvrir dans un premier temps au moins l'Europe, occidentale et orientale d'ailleurs, et après, ben, on ne sait pas, hein, on ne lui a pas donné le temps, on ne lui a pas laissé le temps, et heureusement d'ailleurs, d'aller plus loin dans son ambition. Donc voilà pourquoi on parle de nouvelle route de la soie, parce qu'il y avait d'anciennes routes de la soie qui reposaient sur d'autres raisons, hein, beaucoup plus que celles que je vais exposer maintenant dans cette deuxième partie, c'est-à-dire en quoi consiste la nouvelle ambition planétaire de la Chine. Donc, comme je le disais à l'instant, au XXIe siècle, Xi Jinping adapte l'idée de recouvrement du monde, en quelque sorte, aux ambitions chinoises. Alors, quelles sont les ambitions chinoises? Ben, la Chine nourrit incontestablement un complexe de supériorité. Et pour cause, hein, c'est, comme on le voit ici, un pays qui, lorsqu'on le dessine de cette manière, est au centre du monde. Hein, on peut le faire aussi pour la France, si on veut. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en général. Hein. Quand vous voyez une carte du monde, on s'arrange pour mettre la France au milieu, sauf que la France est quand même toute petite. Mais là, on place la Chine au centre du monde, donc on tourne un peu la tête à l'envers, mais là, c'est assez spectaculaire, puis on peint la Chine en rouge, c'est encore mieux. C'est par ailleurs le pays le plus peuplé du monde, hein, pour le moment. Hein, l'Inde menace, mais l'Inde est encore derrière. Presque 1,5 milliard d'habitants. Une densité, alors la densité c'est un chiffre moyen, là, 145 habitants au kilomètre carré. Je voulais comparer avec la France, dont la densité est de 113 habitants au kilomètre carré. Mais une densité qui est très inégalement répartie. Comme vous le voyez, c'est surtout ici, hein, beaucoup moins là. Alors là, il y a des grands déserts, hein, il y a le Taklamakan, il y a le Tibet, il y a aussi des grandes montagnes, il y a des endroits qui sont désertiques. Et puis, il y a toute la région du Xinjiang, avec les Ouïghours, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont qu'une vingtaine de millions, qui ne représentent pas donc des densités fortes, mais ça représente quand même un marché, alors de production et de consommation, d'1,5 milliard de personnes. Et puis c'est, qu'on le veuille ou non, la première puissance économique mondiale. Alors, on n'a pas l'habitude de le dire, parce que quand on calcule par rapport au produit intérieur brut, c'est les États-Unis. Mais lorsqu'on ramène le produit intérieur brut à ce qu'on appelle les données en parité de pouvoir d'achat, la parité de pouvoir d'achat, c'est qu'on prend le panier de la ménagère, un gros panier, puisqu'il y a 3000 articles et produits qui entrent dans ce panier, on prend 3000 articles et produits, on en estime le prix dans le pays concerné et on s'aperçoit que la monnaie chinoise est depuis longtemps sous-évaluée. C'est-à-dire que les Chinois sous-évaluent leur monnaie exprès, de telle sorte qu'ils n'apparaissent pas vraiment comme la première puissance mondiale, mais en réalité, lorsqu'on rétablit la valeur réelle du yuan avec ce mode de calcul de la parité de pouvoir d'achat, la Chine, et depuis quelques années, hein, depuis 4 ou 5 ans, est passée devant les États-Unis. Donc on est en présence d'un acteur qui pèse très lourd, qui pèse très très lourd. Ça c'est sur le plan de la démographie, c'est sur le plan de l'économie et sur le plan du système économique. Ça fait un certain temps que la Chine s'est un peu éloignée du modèle communiste. En 1976, Deng Xiaoping avait, comme je l'ai écrit sur cette diapo, fait basculer la Chine dans ce qu'il a appelé l'économie socialiste de marché. Alors, la formule est habile, hein. Elle a été reprise d'ailleurs par un de nos hommes politiques, vous vous en souvenez peut-être, au début des années 2000, c'était Dominique Strauss-Kahn, qui était socialiste, enfin, qui était socialiste, oui, mais qui avait bien compris qu'on ne pourrait pas continuer à mettre en application la doctrine socialiste des années 50 ou 60 dans un monde capitaliste. Donc il avait transformé ça en économie sociale de marché. Et c'est ce qui est pratiqué, c'est ce qui a été pratiqué déjà par Mitterrand, hein, 2 ans après sa prise de pouvoir, c'est ce qui a été pratiqué par Lionel Jospin et c'est ce qui a été pratiqué par François Hollande. Hein, une sorte d'économie sociale de marché, c'est-à-dire une adaptation au capitalisme, qu'on n'appelle plus capitalisme, qu'on appelle libéralisme économique, une adaptation au libéralisme économique en essayant de le rendre le plus social possible. Eh bien, les Chinois ont fait ça, hein, et ils sont entrés de plein pied dans le système capitaliste en 2001. En 2001, la Chine a été admise à l'OMC. Alors, l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'un des 3 gendarmes de l'économie libérale mondiale. Il y a la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce. On entre dans l'Organisation mondiale du commerce quand on demande à y entrer et quand on est considéré par la communauté internationale qui en fait partie comme éligible. Pour être éligible, eh bien, il faut respecter un certain nombre de critères que certains pays ne respectaient pas, comme par exemple la Russie, qui n'a été admise qu'en 2012. Quels critères ne respectaient pas la Russie ? Les droits de l'homme. Alors, je vous entends murmurer en disant « Ah bon ?» Et alors la Chine en 2001, ben oui, la Chine en 2001, on s'était quand même un petit peu arrangé avec les valeurs, hein, parce qu'on avait vraiment besoin de la Chine, d'une part pour mettre en difficulté la Russie, et puis parce qu'on voyait arriver la Chine sur le marché international. Donc une fois que la Chine est membre de l'OMC, elle entre de plein pied dans un monde sans frontières économiques. Hein. Nul ne doit se mettre en travers de la libre concurrence, sinon l'OMC intervient. Si par exemple, comme on le disait à midi, on veut taxer les panneaux solaires chinois pour protéger notre propre industrie, on sera sanctionné par l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'on n'a pas le droit, sauf à démontrer que les panneaux solaires chinois sont nocifs pour la santé, ce qu'on essaiera sûrement de faire, mais pour le moment on n'a pas besoin de le faire, puisqu'on produit pratiquement pas de panneaux solaires chez nous. Vous voyez ? Donc la Chine, membre de l'OMC, est protégée par cette règle qui fait qu'elle peut inonder le monde entier. En tout cas, tous les membres de l'OMC, il y en a maintenant, je crois, 198, ou presque le monde entier est membre de l'OMC, inonder le monde entier de ses produits finis. Elle est donc entrée de plein pied dans le système capitaliste. Elle respecte les lois de l'OMC, beaucoup plus que ne le faisait Donald Trump, par exemple. Hein. Elle respecte les lois de l'OMC, et comme je le dis, elle s'acquitte de ses cotisations, elle a les moyens, hein. Et donc elle fait partie du système capitaliste. Or, ce n'est pas un pays capitaliste. C'est encore un pays communiste, dirigé par Xi Jinping, que vous voyez ici. Qui est Xi Jinping? Eh bien, c'est un, disons que c'est un héritier, on pourrait dire, parce que son père a été un compagnon de Mao Tse-tung, et donc c'était un notable, un privilégié. Le jeune Xi Jinping a bénéficié donc au départ de tout ce dont avait droit avaient droit les privilégiés, c'était une voiture, du personnel domestique, une maison de campagne, etc., etc. Mais malheureusement, le jeune Xi Jinping, qui avait un bel avenir, l'a vu freiner par la disgrâce de son père, parce que c'est un pays où on peut tomber assez rapidement en disgrâce. Et donc, il a mis du temps à gravir les échelons du Parti communiste, il n'a même pas été admis du premier coup. Il a dû attendre 2 ou 3 ans avant d'être admis au Parti communiste, puis il est arrivé très vite à accéder à la présidence de la République populaire de Chine en 2013, et il a été réélu en 2018. Naturellement, il sera réélu en 2023, et en 2028, il a le droit de toute façon de se réélire jusqu'à sa mort, parce qu'il a inscrit ça dans la Constitution. Donc, il est relativement tranquille, et retenez bien de tout ça, à part l'ironie de mon propos, qu'il a le temps devant lui. C'est très important, et ça nous démarque de nos démocraties dans lesquelles on n'a pas le temps devant nous. Parce que tous les 4 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 7 ans, on n'est pas à l'abri d'une alternance. Là, ils sont totalement à l'abri d'une alternance, d'autant plus que le congrès, qui est le congrès du Parti communiste, est à sa botte. Hein. Et c'est ce qui fait la clé de compréhension, c'est ce que j'explique dans cette diapo, la clé de compréhension de la puissance chinoise, c'est qu'on a un système capitaliste dirigé par une administration communiste et donc qui n'est pas démocratique du tout et qui ne supporte pas la moindre contestation. Les ordres qui sont donnés sont respectés. Dans ce cas-là, le capitalisme avance beaucoup plus vite que dans les pays démocratiques. Alors, ces nouvelles routes de la soie. Ces nouvelles routes de la soie, comme je le disais tout à l'heure, ce sont soit des routes terrestres, hein, qui partiraient de Chine ici, qui passerait par l'Asie centrale et qui gagnerait l'Europe, ou bien des routes maritimes qui passeraient par le sud de la Chine, qui contournerait l'Inde et qui s'engouffrerait dans la mer Rouge par le canal de Suez pour regagner l'Europe par les principaux ports de Méditerranée, c'est-à-dire soit le Pirée, soit Venise, et c'est surtout un système, un programme absolument gigantesque pour développer essentiellement les voies de communication. Je crois que quand on parle de route de la soie, on a raison d'insister sur le mot route, parce que ce que les Chinois ont compris, c'est que pour faire du bon commerce, il faut maîtriser les voies de communication. C'est par là que tout passe. Hein. Toutes les marchandises passent par là. Donc, les Chinois vont mettre beaucoup d'argent dans le développement des infrastructures routières ou ferroviaires ou maritimes. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est, regardez, là j'essaye de faire un petit comparatif entre le plan Marshall, hein, que certains d'entre vous ont connu, enfin, on était tout petits quand même, mais enfin, le plan Marshall qui ne concernait, par exemple, que 18 pays, alors que le programme chinois des voies, des Belt and Road Initiative, concerne 68 pays. Ça concernait le plan Marshall, 275 millions d'habitants à l'époque. Là, on va couvrir 3 milliards 400 millions d'habitants, dont le 1,5 milliard de Chinois. Et là, on est sur 1 280 milliards de dollars, alors qu'on était dans l'équivalent, je crois, de 275 ou quelque chose comme ça, millions de dollars d'équivalent de notre monnaie d'aujourd'hui, du temps du plan Marshall. Donc on a des moyens budgétaires énormes, qui viennent essentiellement de la spéculation de la Chine communiste sur les devises étrangères, hein, qui a donc capitalisé sur, en jouant sur les cours des monnaies, sur les cours des devises, capitalisé des milliards de dollars, hein, on ne le sait peut-être pas, mais une grande partie des fonds de pension américains sont originaires de Chine, c'est-à-dire c'est la Chine qui est derrière tout ça. Ils ont donc énormément d'argent, et ils vont en profiter pour, justement, façonner ces routes terrestres, ferroviaires et maritimes. Alors, il y a, en fait, trois sortes de routes de la soie. Les routes à travers l'Asie centrale, routes et voies ferrées, hein, les routes et voies ferrées qui vont vers l'Europe occidentale, et puis les routes maritimes. Parlons très rapidement des routes à travers l'Asie centrale, ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière. D'ailleurs, vous avez peut-être des conférenciers qui viendront vous en parler ou qui vous en ont déjà parlé, parce qu'il y a là un enjeu géopolitique extraordinaire pour la Chine. Hein. Lorsqu'elle veut faire sortir ses routes de la soie de son propre territoire, elle traverse forcément le Xinjiang, c'est-à-dire le pays, l'État autonome, dit-on, des Ouïghours, le Xinjiang qui est un État autonome, les 22 millions de Ouïghours qui habitent là, que la Chine essaye de siniser absolument, et c'est incontestable que les routes de la soie qui passeront par le Xinjiang contribueront à siniser les Ouïghours. L'inconvénient, si on peut dire, c'est que ça met en lumière, ça met en image presque, la répression que les Chinois mènent actuellement contre les Ouïghours. Enfin, ils auront, grâce à cette voie, ils auront maîtrisé un territoire que pour le moment ils ne maîtrisent pas très bien. Ensuite, il faudra maîtriser, on est toujours en Asie centrale, les anciens pays qui faisaient partie Orient occidental, hein, et c'est-à-dire les nouvelles républiques qui sont assez remuantes, hein, mais dont certaines sont très riches en gaz ou en pétrole, et donc la Chine s'intéresse, hein, bien sûr, ça l'intéresse beaucoup. Ils vont faire passer, c'est pour ça qu'ils infléchissent une partie des routes de la soie d'Asie centrale vers ces pays-là, mais l'autre, la principale, passe par le nord, hein, par Astana et Moscou, pour gagner l'Europe occidentale. Et alors, elle gagne l'Europe occidentale vers Duisbourg. On part soit de Shenyang, soit de Shanghai, soit de Tianjin, plutôt de Tianjin. On passe par Astana et par Moscou, et on arrive, au bout de 12 à 14 jours, hein, on arrive à Duisbourg. En 2016, comme je l'ai mis sur cette diapositive, il y avait quand même 6 trains par jour. Hein. Ça fait beaucoup, avec 41 conteneurs dessus. Et pourquoi Duisbourg? Parce que c'est un port qui est sur le Rhin, qui donc débouche directement sur Rotterdam si on veut, et si on descend vers le sud, qui va vers Venise, parce qu'ils n'ont pas perdu l'espoir de conquérir Venise. Pour le moment, ils sont très présents sur le Pirée, hein, qu'ils ont d'ailleurs pratiquement à leur main, puisqu'ils ont obtenu la gestion du port du Pirée, étant donné que les Grecs n'arrivaient pas à rembourser la dette chinoise, eh bien, ils ont obtenu pour 99 ans la gestion du port du Pirée. Donc, ils sont chez eux au Pirée. Ils aimeraient bien être chez eux à Venise. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est très souhaitable, d'ailleurs, pour l'avenir patrimonial de Venise. Enfin, pour le moment, ils n'y sont pas. Mais ils sont à Duisbourg. Ils savent donc qu'ils peuvent parfaitement descendre jusqu'à Venise. Et surtout, en descendant vers Venise, ils s'arrêtent à Lyon. Alors, peut-être vous ne le savez pas, mais depuis 2016, il y a un train Wuhan-Lyon qui met 15 jours, qui traverse 7 pays, qui fait 11 300 km et qui s'arrête à Lyon. L'étape finale du train des routes de la soie s'arrête à Lyon, c'est presque un symbole. Hein, alors, ils n'y ont peut-être pas pensé, mais nous, de temps en temps, ça nous grince à l'oreille, hein, le souvenir des canuts lyonnais. On se dit que, tiens, leur route de la soie débarque chez nous, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est vrai qu'ils arrivent à Lyon. Alors, depuis le Covid, ils ont un petit peu diminué les transports par voie ferroviaire. Ils se sont contentés des transports par voie maritime dont nous parlerons tout à l'heure. Et là, on a l'impression, quand on regarde la carte, quand on les voit à Lyon, qu'ils sont au cœur même de chez nous. Les routes de la soie, sans qu'on en parle beaucoup, eh bien, ils arrivent au cœur même de chez nous. Évidemment, les conteneurs qu'il y a sur ces trains sont remplis de produits finis. Alors, lesquels? Ben, je pense que vous en avez tous avec vous, hein. Des masques, du gel, téléphone Huawei, probablement aussi, dans votre poche, peut-être, une chemise, un t-shirt, enfin, plein de choses qui sont passées par ce conteneur et qui sont arrivées à Lyon. Mais tant, évidemment, quand même, en émoi, une partie de l'économie européenne. De telle sorte que certains des responsables européens résistent. C'était le cas, en tout cas, du tandem Macron-Merkel, que l'on voit sur cette photo à côté de Xi Jinping. Ils ont l'air réjouis tous les deux, pas Xi Jinping, et pourtant je pense que c'est lui qui a gagné, mais bon, on ne peut pas savoir. Hein. Peut-être qu'ils viennent de passer un accord gagnant-gagnant. Mais il n'y a guère que la France et l'Allemagne qui résistent. Hein. Par exemple, l'Italie a signé un accord, le président Mottarella, qui va être remplacé bientôt, a signé un accord en 2019, autorisant quasiment d'avance les Chinois, s'ils le souhaitent, à s'installer à Venise. Et puis surtout, l'Europe, face à la Chine, et comme sur beaucoup d'autres sujets, est divisée. Hein. Vous avez le fameux partenariat 16+1, qui veut dire que 16 pays d'Europe orientale ont signé des accords avec la Chine. Parmi ces 16 pays, 11 appartiennent à l'Union européenne. Alors, si vous êtes extrêmement attentif, il y a une faute là. Hein. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu? Très bien. Très bien. Parce qu'avant-hier, on me l'a signalé, je ne l'avais pas encore vu. Seulement, c'est une Suédoise qui l'a signalé. Donc, je me suis dit, c'est parce qu'elle est Suédoise qu'elle a vu que c'était une erreur. Mais je vois que vous êtes très attentif et vous avez bien vu qu'on a mis Finlande alors qu'on aurait dû mettre Suède. À part cette erreur, vous avez quand même un îlot de résistance important par rapport à l'avancée de ces fameuses routes de la soie et qui, d'une manière ou d'une autre, finiront par céder parce que, souvent, ils sont endettés par rapport à la Chine, hein, où ils ont accepté que la Chine restaure leur réseau ferroviaire ou restaure leur réseau routier ou leur construise ceci ou cela et, petit à petit, une fois que vous êtes endetté, vous êtes pied d'abord, puis point, ensuite, puis pied et point, ensemble, liés, et vous ne pouvez pas résister à la puissance chinoise. J'en arrive donc, finalement, au cœur de mon sujet, c'est-à-dire l'Afrique, qui est le maillon important. Notez bien que j'ai mis maillon important et pas maillon principal, parce que l'Afrique n'est qu'une petite partie des visées chinoises. Hein. L'essentiel de l'argent dont je vous parlais tout à l'heure, que la Chine met dans la Belt and Road Initiative va ailleurs qu'en Afrique. Mais beaucoup va quand même aussi en Afrique. Et surtout, ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a passionné, c'est la cartographie de l'incursion, des incursions chinoises. Hein, les incursions chinoises. Voilà la route maritime. Regardez-la bien. On part de Chine. c'est pas très compliqué. On suit cet itinéraire-là et on arrive sur la Corne de l'Afrique. Donc, on est tenté soit de prendre la mer Rouge et de rejoindre la Méditerranée. Ça, c'est l'objectif numéro un. Soit, finalement, de descendre un petit peu plus au sud. Et c'est ce dont je voudrais vous parler. Mais avant, je rappelle que cette stratégie, que j'admire beaucoup, parce qu'elle est absolument remarquable, avait démarré bien avant 2013. En 2008, les Chinois avaient lancé ce qu'ils avaient appelé la stratégie du collier de perles. Les colliers de perles, c'est ces perles-là sont des comptoirs, ce qu'on appelait des comptoirs du temps de la colonisation française, des comptoirs qui sont évidemment côtiers sur le bord, ce sont des ports pour la plupart, et qu'on positionne dans des endroits stratégiques, notamment ici, là, dans le détroit de Malacca, mais aussi ici, dans le détroit entre l'Inde et le Sri Lanka. Et ces comptoirs permettent finalement d'avoir des points d'appui où on peut envoyer des produits finis si on veut et drainer des matières premières s'il y en a. Et ça, c'est comme si on faisait du cabotage. On n'a pas besoin de traverser des océans. Au contraire, on rentabilise le voyage maritime en s'arrêtant dans le plus grand nombre de ports qu'on peut. On s'était aperçu, à la faveur de cette stratégie du collier de perles, que le grand port du Sri Lanka, Mtota, était aussi passé dans l'escarcelle chinoise, parce que, faute de pouvoir payer la dette, eh bien, on a concédé pour 99 ans, bail amphithéotique, la gestion du port aux Chinois. Alors, ils évitent quand même, vous remarquerez qu'il n'y a pas de point d'appui en Inde, parce que ce qu'ils voulaient, c'était isoler l'Inde, donc ils n'avaient pas intérêt à s'y poser, et ils y sont quasiment parvenus, puisqu'ensuite, ils sont à proximité du détroit d'Ormuz, et puis ensuite, ils s'approchent, évidemment, de la Corne de l'Afrique, de cet endroit qui les intéresse beaucoup, c'est l'entrée en mer Rouge. Et comment vont-ils faire pour s'y poser? Eh bien, ils vont choisir Djibouti. Comment vont-ils faire Djibouti? Eh bien, ils vont profiter, en 2008 justement, de cette piraterie maritime qui est extrêmement présente dans toute cette corne, au large de la Somalie, la piraterie maritime qui a déclenché la fameuse opération française Atalante, qui a été ensuite relayée par l'Europe et puis appuyée par d'autres puissances, dont le Japon. Ils ont profité de l'opération Atalante contre la piraterie maritime pour proposer leurs services, en disant « Nous aussi, ça nous intéresse qu'il n'y ait pas d'insécurité dans cette zone, parce que nous aussi, on a des navires qui vont en mer Rouge et qui vont jusqu'au canal de Suez. » Donc, on va vous aider. Et effectivement, ils ont commencé à envoyer des bateaux de surveillance. Ils ont joué d'ailleurs tout à fait loyalement le jeu, c'est-à-dire qu'on se partageait les tâches. Ils étaient plutôt dans le nord et puis à Talente avec les Français, les Américains, les Allemands et les Japonais étaient plutôt dans le sud. Et puis finalement, ils ont décidé d'installer une base militaire. Alors ça, c'était une grande nouvelle. Parce que pour le moment, les Chinois n'avaient aucune base militaire en dehors de leurs frontières. Ils ont décidé de construire une base militaire à Djibouti. Vous voyez, Djibouti, c'est ici. C'est vraiment à l'entrée de la mer Rouge, à l'entrée du Bab el-Mandeb, ici. Donc c'est vraiment très stratégique. C'est pas pour rien si nous-mêmes y avons une base militaire, alors qu'elle est en déclin par rapport à ce qu'elle a été. Mais ils s'y installent. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils s'installent à Doralé. Si certains d'entre vous connaissent Djibouti, Doralé, c'est ici, à l'ouest de Djibouti, c'est pas très loin, c'est à une douzaine de kilomètres de Djibouti. Ça a longtemps été une plage, la première plage où on pouvait se baigner quand on vivait à Djibouti. Alors, ce n'est plus du tout une plage. Les Chinois en ont fait d'abord un énorme port à conteneurs ici, au côté oriental, et puis ils construisent leur base ici, à l'ouest. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils sont à peine 20 km à vol d'oiseau de la base militaire américaine. Laquelle s'est installée dans l'ancien camp militaire français, l'ancien camp Le Monnier, parce que la France a un peu dégraissé ses effectifs. Donc, les Américains sont ici. L'avantage des Américains, c'est qu'ils sont sur l'aéroport de Djibouti-Ambouli, pas les Chinois. Donc, ils dépendent quand même, d'une certaine manière, de la bonne volonté des Djiboutiens pour accéder à l'aéroport. L'avantage des Chinois, c'est que pour le moment, ils n'ont pas encore mis beaucoup d'hommes. Hein. C'est une base qui pourra recevoir 10 000 hommes, hein, alors qu'il y a à peine, il y a à peine 2 000 Français et à peine 2 000 Américains. Et que les Américains ne sont pas là pour ça. Les Américains sont là parce que c'est leur base de drones pour surveiller le Sahel, toute la zone sahélienne. Enfin, ils sont là. Donc les Chinois sont là, là et pas là, mais en fait, quand on y regarde de près, ils sont quand même là, parce qu'on les voit, hein, il y a des parades, il y a des débarquements de bateaux, ils débarquent surtout en bateau, puisque l'aéroport leur est pas très familier, ni favorable. Ils se battent, ou ils s'entraînent plus exactement, dans les zones extrêmement inhospitalières qu'il y a à Djibouti, c'est le centre d'aguerrissement de l'armée française, hein, c'est là qu'on forme nos forces spéciales. Donc ils sont présents, ils sont vraiment là. Et puis surtout, ils sont derrière. Parce que regardez, entre Djibouti, qui est ici, et Addis Abeba, la France avait construit le chemin de fer franco-éthiopien au début du XXe siècle. Hein, 784 kilomètres, je crois, de chemin de fer pour justement regagner les hauts plateaux éthiopiens. Eh bien, ce sont les Chinois qui ont racheté le chemin de fer franco-éthiopien, alors qu'on pensait que c'était Bolloré qui allait racheter ça. Bolloré, pendant un temps, rachetait tous les chemins de fer africains. Moi, personnellement, pendant un temps, je ne comprenais pas pourquoi. C'est seulement quand j'ai vu les Chinois faire que j'ai compris. Et puis, depuis, Bolloré a changé d'avis, d'ailleurs. Il est plutôt en train de les revendre. Mais enfin, si ça se trouve, c'est les Chinois qui vont les racheter. Les Chinois ont racheté le chemin de fer qui avait été construit par les Français. Ils l'ont réhabilité complètement, refait les rails, refait les ponts. Amener les locomotives, amener les wagons, amener les contrôleurs, amener les conducteurs, et tout est chinois. Si vous voulez prendre le train pour Addis Abeba à la gare de Djibouti, à la gare ferroviaire de Djibouti, vous aurez un guichetier chinois, dans le train vous aurez un contrôleur chinois, tout est chinois. C'est-à-dire qu'à Djibouti, entre Djibouti et Addis Abeba, la Chine a fait ce que la France n'aurait jamais osé faire, je crois, hein, en termes de néocolonialisme. Ils se sont installés et le chemin de fer est à eux. Alors, pourquoi hein, est-ce qu'ils aiment les chemins de fer? Mais non, c'est que de l'autre côté, l'Éthiopie, qui est probablement la future première grande puissance économique africaine, hein, avec 80 millions d'habitants, beaucoup de richesses, une main-d'œuvre low cost, pourrait-on dire, c'est-à-dire qui ne coûte pas très cher, eh bien, elle est au bout de ce chemin de fer et là, les Chinois ont donné libre cours à leurs investissements. Ils ont beaucoup construit, donc beaucoup endetté l'Éthiopie par rapport à eux, et ils ont surtout transformé, grâce aux zones économiques spéciales, les ZES, zones économiques spéciales, c'est ce qu'on appelait autrefois les zones franches, d'immenses ateliers où on fait ce qu'on pense qu'on fait en Chine, c'est-à-dire faire travailler une main-d'œuvre à bas prix pour fabriquer en masse des t-shirts, des chemises, de toutes sortes de choses. Ils ont compris, avant l'heure pratiquement, qu'un jour ou l'autre, la main-d'œuvre chinoise elle-même serait peut-être un petit peu trop chère, et donc ils vont chercher de la main-d'œuvre un petit peu moins chère en Éthiopie. Alors, les Américains avaient fait ça avant eux, lorsqu'ils avaient délocalisé leurs usines au sud de la frontière avec le Mexique. Vous vous en souvenez, hein, ils avaient construit beaucoup d'usines là en disant, c'est de l'autre côté, la main-d'œuvre est moins chère. Bon, on a aussi, nous, des entrepreneurs français qui vont construire ou qui vont faire fabriquer dans des pays plus intéressants, pas forcément très lointains d'ailleurs, hein, comme je crois que c'est les macarons La Durée qui sont construits en Suisse, qui sont fabriqués en Suisse, non à cause de l'air suisse, hein, vous savez, qui s'infiltre bien dans un macaron, c'est pour ça qu'il est si tendre et si moelleux, c'est ce qu'explique le patron de La Durée. Donc on peut aussi construire de l'autre côté de la frontière quand on y trouve des avantages. Dans le cas de La Durée, je crois que l'avantage, il est surtout fiscal, hein, parce que la main-d'œuvre suisse n'est pas forcément moins chère que la main-d'œuvre française. Mais là, ils sont extrêmement bien positionnés. Alors, ils ont peut-être un petit souci en ce moment, c'est que l'Éthiopie est très insécure. L'Éthiopie est en guerre civile, on peut dire, hein, à l'intérieur de ses propres frontières, en guerre potentielle avec son voisin Érythrée. On verra tout à l'heure sur une carte que l'Érythrée les a coupés depuis qu'elle est indépendante. Les a coupés de son accès à la mer Rouge, donc l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer, n'accède à la mer que par Djibouti. C'est d'ailleurs pour ça que les Chinois ont construit le chemin de fer, ont reconstruit le chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie. Et donc on a là un point d'appui et la première belle illustration de l'implication et de l'intrication, pourrait-on dire, de la progression des routes de la soie qui s'arrête au port de Djibouti et qui commence à s'infiltrer à l'intérieur du pays. Le second point d'appui, c'est Mombasa. Alors Mombasa, c'est un port kényan, hein, sur lequel les Chinois ont mis le focus assez rapidement, où ils ont construit des infrastructures importantes endettant le Kenya à un point tel que maintenant, là encore, comme pour le Pirée, ils ont la gestion du port de Mombasa, donc ils sont chez eux. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont construit? Ben, même chose, ils ont construit une voie ferrée qui va de Mombasa, le port, jusqu'à Nairobi, la capitale du Kenya, et ils envisagent de pousser plus loin, hein, de pousser plus loin la voie ferrée, par exemple jusqu'à Kampala. Et pourquoi Kampala? Eh bien parce que là, ils seront exactement dans le dos de la République démocratique du Congo, avec très grande facilité pour passer du côté de la République du Congo. Alors, si la carte est suffisamment claire, on a là, je n'ai pas pris tous les exemples, hein, mais on appelle le Congo le scandale géologique, parce que toutes les matières premières y sont, et notamment toutes celles qui sont à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qui ne pèsent pas lourd et qui coûtent très cher. Alors, quelles sont ces matières premières à haute valeur ajoutée? Il y a bien sûr les rectangles jaunes, c'est l'or, hein, les losanges, c'est le diamant, et puis les carrés rouges, si on les voit bien là-dessus, il me semble qu'on les voit, oui, comme ça par exemple, ça c'est le coltan. Alors le coltan, c'est, vous savez, le colombo tantalite, c'est ce qui permet de faire les microprocesseurs de vos téléphones. Alors, téléphone, vos consoles de jeu, mais c'est surtout vos petits-enfants qui jouent avec les consoles de jeu, mais les téléphones, vous en avez. Vous avez peut-être d'ailleurs les fameux téléphones Huawei, hein, dont on rappelle que c'est quand même le fleuron de l'industrie électronique chinoise, Huawei étant quand même le premier développeur de la 5G. On a un peu perdu de vue que les Chinois nous avaient laissé faire la 4G, et pendant qu'on faisait la 4G, ils faisaient la 5G. Et maintenant, ils sont en avance par rapport à nous, pas seulement. Hein. Ce sont aussi les téléphones Huawei qui sont très en avance sur la reconnaissance faciale, hein, et qui ont développé d'ailleurs une industrie des caméras à reconnaissance, des caméras de surveillance. Enfin, ça dépend. Si vous êtes de gauche, vous appelez ça une caméra de surveillance. Si vous êtes de droite, une caméra de protection, hein, vidéoprotection, vidéosurveillance. Mais dans les deux cas, c'est une caméra qui, lorsqu'elle est de technologie Huawei, a la possibilité, ne le fait pas encore, mais a la possibilité de pratiquer la reconnaissance faciale quand on lui demandera. Alors, c'est très intéressant. Certaines communes françaises se sont déjà dotées de caméras Huawei. Hein. Au grand dam d'ailleurs des électeurs qui parlent de vidéosurveillance, hein, pas ceux qui parlent de vidéoprotection. Je crois que la ville d'origine de Jean-Louis Borloo, je crois que c'est Tourcoing, non, ou Roubaix, je ne sais plus, Valenciennes, voilà, Valenciennes s'est dotée de caméras de ce genre parce que Jean-Louis Borloo fait partie du conseil d'administration de Huawei France. Donc vous avez la chaîne, la boucle est bouclée. Hein. Vous avez le coltan ici, on va le chercher loin. Hein. Le coltan ici qui passe directement en Chine. Parce que ce que j'ai dessiné, enfin, ce qu'on a dessiné, le cartographe a dessiné, c'est un de mes étudiants, donc c'est lui qui l'a fait, c'est vrai. Et c'est moi qui lui ai dit de le faire. Les fameux corridors chinois en vert qui montrent que l'on peut aller chercher les matières premières qu'on veut, surtout, comme je le dis, si elles sont à haute valeur ajoutée, qui ne pèsent pas lourd et qui rapportent gros. On les fait passer directement à Kampala, on les fait emprunter le chemin de fer qu'on a construit jusqu'à Mombasa, on n'est pas emmerdé à Mombasa puisqu'on est propriétaire du port, donc aucun douanier ne vient nous tracasser, et hop, ça part dans vos téléphones Huawei. Vous avez vu que ça vient de loin. Je ne vous parle pas de l'empreinte carbone. Et troisième entrée, la Tanzanie. En Tanzanie, c'est le port de Dar es Salaam, ils sont également présents, ils ont construit un chemin de fer qui va vers la Zambie. Alors pourquoi la Zambie? Parce que c'est un très gros producteur de cuivre. On est juste dans le dos, ici, de la fameuse province congolaise qui était productrice de cuivre et qui avait donné lieu à une guerre civile au début des indépendances. La Zambie est sur les mêmes gisements. Et donc, quand on pourra aller jusqu'en Zambie avec le chemin de fer chinois, on pourra prendre du cuivre. Alors là, c'est un peu plus lourd, mais ça n'a pas d'importance. On l'amènera jusqu'à Dar es Salaam et on le ramènera jusqu'en Chine. Vous voyez, en trois cartes, Djibouti, Kenya, Tanzanie, je vous ai montré l'habileté, l'extrême habileté de la stratégie chinoise. Je crois que lorsque les Américains étaient la première puissance capitaliste mondiale, ils rêvaient probablement de réussir ce coup-là, mais ce sont les Chinois qui l'ont réussi. Alors je serais tenté de dire pourquoi les Chinois l'ont réussi, bien parce qu'ils sont tenus par un parti communiste, c'est-à-dire une dictature. Autrement dit, alors c'est une hypothèse, vous pouvez la contester, mais la parole, la fameuse phrase de Mitterrand en 1989 dans son discours de la Baule, lorsqu'il avait dit « il n'y a pas de développement sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans développement », eh bien, il n'y a pas de développement sans démocratie, c'était une erreur. La Chine est en train de le montrer, du temps de Mitterrand, la Corée du Sud était en train de le démontrer, un petit peu après, le Chili de Pinochet l'a démontré, l'Afrique du Sud de l'apartheid l'a démontré, ce sont des pays qui n'étaient absolument pas démocratiques, qui ont connu une grosse croissance économique. Actuellement, on pourrait citer le Vietnam, qui est dans le même cas, c'est pas non plus une démocratie, c'est encore un pays communiste, mais qui pratique le même capitalisme que la Chine, et qui est donc en train de réussir sans aucun problème, parce qu'il se pose aucune question sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors que normalement leur idéologie devrait leur dicter de défendre les peuples asservis. Eh bien là, on a un petit peu oublié, on n'y pense plus. Ce qu'on pense, c'est au contraire à développer l'économie chinoise. Ce qui fait que, quand on fait un petit peu de géopolitique, on va aller rapidement, mais quand on fait un peu de géopolitique et qu'on revient sur les cartes, l'océan Indien devient la zone stratégique majeure. Majeure parce que il y a les Chinois qui se sont emparés de tous les détroits, qui assurent la sécurité de tous les détroits. Alors j'ai parlé du détroit de Malacca, il y a les détroits de Porc ici, vous avez le détroit d'Ormuz, vous avez évidemment le Bab-el-Mandeb ici, et vous avez le détroit du Mozambique. Parce que je ne suis pas descendu plus au sud que la Tanzanie, mais si j'étais descendu plus au sud, j'aurais trouvé quoi? Le détroit du Mozambique, entre Madagascar et le Mozambique, et surtout, les fameuses îles éparses qui sont ici. Et j'ai entendu, c'est à nous. Oui, c'est à nous, je l'ai entendu. C'est à nous, quelqu'un le sait, quelqu'un l'a vu. Et surtout, quelqu'un le sait parce que, pour plusieurs raisons. Un, depuis quelques mois, même peut-être 2-3 ans, Madagascar revendique la propriété des îles éparses. C'est une vieille revendication. Mais surtout, il y a un peu avant le Covid, je crois, Macron, lorsqu'il s'était rendu à La Réunion, avait tenu à poser un pied sur l'une des îles éparses pour bien montrer que les Malgaches pouvaient toujours demander et revendiquer la propriété des îles éparses, mais il faudrait d'abord qu'ils démontrent la légitimité de leurs revendications. Ce sont des îles désertes. Et ensuite, qu'on pourrait dire que pourquoi c'est Malgache et non pas Comorien, puisque les Comores sont ici. Donc pourquoi les îles éparses? Pourquoi ce n'est pas mozambicain? Parce que Mozambique est ici. Et puis surtout parce que Macron savait très bien que le véritable enjeu, c'était celui de la zone économique exclusive, c'est-à-dire les 200 000 marins, 370 km de rayon à partir des côtes qui vous appartiennent. C'est une zone maritime qui vous appartient, dans laquelle vous seul êtes autorisé à pêcher, et que si on laisse les îles éparses à Madagascar, quels sont les pêcheurs qui vont venir exploiter les zones économiques exclusives, c'est-à-dire quels sont ceux qui ont les flottes de pêche hauturière seuls capables de venir là, ceux qui le font déjà ailleurs, notamment en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, c'est-à-dire les Chinois. Donc l'enjeu géostratégique, et là c'était une question intéressante qu'on posait d'ailleurs à nos étudiants de Sciences Po en dissertation, les îles éparses, que doit-on en penser? Eh bien, un peu tout ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire, un, est-ce que ce sont des îles dans lesquelles le peuple a demandé l'indépendance. Non, parce qu'il n'y a pas de peuple. Il n'y a que des scientifiques ou des militaires que la France a posés là, sur des rochers, hein, on ne peut rien produire. D'aucuns disent qu'il y a peut-être en sous-sol du gaz ou du pétrole, mais pour le moment, on ne l'a pas encore démontré. L'intérêt de ces îles, c'est la surveillance du canal du Mozambique, donc stratégique. C'est la zone économique exclusive, c'est-à-dire une zone de pêche que la France exploite. Hein. Je ne dis pas qu'elle a laissé en friche. La France exploite cette zone de pêche économique. Et puis, le troisième argument, c'est la Chine. La Chine qui est sous le faux nez malgache, qui est en train d'attendre, parce que si vous allez à Diego Suarez, vous verrez que le port, il a beau fabriquer du thon pompon rouge hein, sous une étiquette française, la plupart des thoniers qui sont à Diego Suarez sont chinois. Donc ils attendent, hein, pied au taquet là, ils attendent en disant dès que ça redevient malgache, dès que ça devient malgache, ça ne l'a jamais été, dès que ça devient malgache, on va aller y pêcher, vous voyez. Alors là, on n'a parlé que de l'Afrique de l'Est, parce que pour la démonstration, c'était plus pratique, on voyait bien, les cartes le montrent bien, qu'ils sont très présents. Maintenant, si on regarde le reste du continent. Ils sont également présents ailleurs. Hein. Cette carte est compliquée, on va pas la détailler, mais ils construisent des infrastructures dans de nombreux pays. Ils sont le plus souvent sur la construction de routes ou la construction de voies ferrées, c'est clair, ou la construction de ports, mais aussi des centrales électriques, hein, centrales thermiques la plupart du temps, puisqu'ils en ont la technologie, des centrales électriques, et puis très souvent des stades. Des stades parce que c'est prestigieux, hein, tel stade est considéré comme un stade chinois, c'est un don, c'est rarement un don, mais enfin c'est un prêt de nos grands amis chinois, et ils construisent des très très grands stades, alors pas toujours de façon heureuse. Par exemple, le stade des Bimpe, là, qu'ils ont construit pour la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont planté un gazon. Alors, vous voyez, la plantation de gazon, là, c'est un peu ouya ouya, comme on dirait, gros doigt, comme on dirait à La Réunion. Et au bout de 6 mois, le stade était comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'herbe. Donc, comme il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait non plus de matchs et il n'y avait pas non plus de spectateurs. Et là, on touche du doigt un sujet qu'il faut aborder. Vous auriez pu éventuellement évoquer en question, c'est comment se fait-il en effet que lorsque les Chinois construisent quelque chose, ça paraît moins solide? Est-ce que c'est pour nous rouler? Ça serait une réponse facile. En fait, non. Ils ne respectent pas les mêmes normes. Et ça, c'est extrêmement important. Ils ne respectent pas les mêmes normes et ils sont en train, parallèlement à tout ce que je viens de dire, de s'infiltrer dans les instances internationales, notamment dans l'organisme international de protection des brevets, pour faire modifier les normes. Donc, leur route, effectivement, qu'ils construisent en Afrique, au bout de 6 mois, il y a plein de trous. Pourquoi? Parce que c'est pas tout à fait, c'est même pas du tout, les mêmes normes de construction que celles que respecte Bouygues, par exemple, hein, ou Eiffage, ou les autres constructeurs de routes. Et bien souvent, les Africains disent, nous on prend les Chinois parce qu'ils sont moins chers. Oui, ils sont moins chers. S'ils mettent 2 fois moins de goudron, 2 fois moins de gravier, 2 fois moins de sable, ils sont moins chers. Mais au bout de 6 mois, c'est une route pleine de trous. Donc, ils visent à modifier les normes, ce qui, dans le cas des routes, est secondaire, puisque nous, on n'en est pas encore arrivé à se faire construire les routes par les Chinois, mais dans le cas des médicaments, est un petit peu différent quand même, un petit peu plus préoccupant. Et pourtant, là aussi, ils militent effectivement pour la modification des normes. Et là, ils jouent un petit peu avec les pays du Sud, et notamment les pays africains, sur la fibre nationaliste, en disant, mais combien de temps allez-vous respecter les normes occidentales de vos anciens colonisateurs? Regardez-nous, hein, on en a d'autres et on se porte très bien. Alors là, c'est un véritable danger. Il y a eu des articles qui ont été publiés il y a quelques mois sur la lutte, le lobbying des Chinois pour essayer de s'infiltrer dans toutes les instances internationales. Alors, ils n'en sont pas encore à diriger ni l'OMC, ni la Banque mondiale, ni le FMI, mais ils sont dans des instances secondaires des Nations Unies où je crois qu'ils ont au moins 3 ou 4 présidents sur 12, hein, déjà. Donc, progressivement, ils vont peut-être parvenir à leur fin. Autre question que l'on peut poser, quelle est la présence militaire chinoise en Afrique? Alors, en gris foncé, c'est les pays qui achètent des armes à la Chine. C'est assez réconfortant d'une certaine manière, parce qu'on croyait qu'avec la France, mais pas du tout. Alors ils sont très bons parce qu'ils vendent une imitation de Kalachnikov. Alors les Russes sont foudrages, mais ils ont toujours fait ça, les Chinois. Là. C'est péjoratif ce que je raconte ça sur le ton de l'ironie, je ne devrais pas, mais moi j'ai connu les Chinois dans mes premières années d'Afrique, parce qu'ils étaient déjà en Afrique, et c'est vrai qu'ils copiaient. Hein, ils copiaient tout ce qu'ils trouvaient, ils copiaient les réfrigérateurs, ils copiaient les congélateurs, et bien ben, ils ont copié aussi les Kalachnikovs. Et vous savez qu'en en droit des brevets dont je parlais tout à l'heure, c'est pas bien compliqué d'être dans la légalité. Vous changez juste un petit truc et vous déposez le brevet et c'est à vous. Hein. C'est ce que font les laboratoires pharmaceutiques d'ailleurs. Lorsque les médicaments arrivent à la fin du brevet, hop, ils changent une petite molécule et ils repartent pour 7 ans ou 8 ans, ça dépend de la durée du brevet. Ben, la Kalachnikov, la K-47, là, eh ben, eux, ils en fabriquent des moins chers et ils en vendent beaucoup. Alors sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est en hachure, je crois, les endroits où ils font partie des casques bleus. Alors ça n'a pas tellement d'incidence, hein, en fait, parce que les casques bleus, je crois qu'il y en a 100 ou 120 000 en Afrique. Hein. Pour la plupart, ils viennent des armées africaines. Mais il y a aussi des Chinois. La seule chose qu'on peut observer, si on se pose la question pourquoi est-ce qu'ils fournissent des contingents, quand on leur demande, ils disent parce qu'on fait un effort de solidarité. Mais comme on cherche toujours s'il y a des arrière-pensées, on peut imaginer qu'ils se frottent à des terrains nouveaux, hein, au sein des troupes de casque bleu. Mais ce qui est surtout très important et très intéressant sur cette carte, qui est déjà ancienne, elle a 2 ou 3 ans d'âge, je crois, c'est les triangles blancs. Les petits triangles blancs, c'est les endroits où il y a eu des troubles anti-chinois, des manifestations anti-chinoises. C'est-à-dire qu'on s'y est pris soit à des installations chinoises, soit à des implantations chinoises avec des Chinois, soit carrément à des Chinois ou à des commerces chinois. Et ça, c'est important parce que depuis, en effet, quelque temps, 2 ou 3 ans, on voit monter un sentiment anti-chinois dont on parle peu en France, parce qu'en France, on parle plutôt de sentiment anti-français, hein, de certains pays africains à l'endroit de l'ancienne puissance coloniale, surtout quand elle a des troupes engagées, comme Barkhane au Sahel, mais on parle peu des manifestations anti-chinoises. Mais moi, j'en ai vu dans certains pays où, effectivement, et notamment à Madagascar, d'ailleurs, où le Chinois, pourrait-on dire, ne bénéficie pas forcément d'un grand capital de sympathie. Alors, ça c'est au cas où vous auriez été tellement accablé par tout ce que j'ai dit, et si vous étiez en train de rentrer chez vous ce soir prêt au suicide, hein, en disant nous allons être bouffés par les Chinois, c'est clair, la conférence qu'il a faite est sans bavure. Non, c'est, il y a, et vous me poserez des questions qui me permettront de modérer, de nuancer mon exposé qui, je le concède, hein, manquait un peu de nuance, mais je pourrais nuancer en disant il y a aussi quelques handicaps qui empêcheront peut-être finalement la Chine d'avancer comme on le craint. Mais, il y a quelques jours, hein, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait un grand voyage en Afrique, et les endroits où il s'est arrêté ne sont pas anodins. Les Comores, alors vous avez compris pourquoi, hein, parce que les Comores, on est dans le canal du Mozambique, s'ils ne peuvent pas avoir les îles Éparses, ben ça serait bien qu'ils prennent pied directement avec un État souverain, l'Union des Comores. Ils en ont profité pour passer des accords importants en termes de protection sanitaire Covid-19. Ils ont fourgué, le mot n'est pas choisi au hasard, leur fameux vaccin Sinopharm, dont les Chinois ne veulent pas, parce qu'il n'est pas bon, mais ils en ont donné beaucoup de doses aux Comores. C'est un pays qui n'est pas tellement peuplé, donc ils pouvaient, sans grand risque, donner 200 000 doses et ils couvraient toute la population, mais surtout signer des accords stratégiques, ça c'est important. Ensuite, ils sont allés, eh bien, au Kenya. Alors, ils sont chez eux, hein, ils peuvent même se poser à Mombasa sans payer le loyer, pour vérifier si leur voie ferrée allait bien progresser au-delà de Nairobi et si possible, jusqu'à Kampala. Et puis, ils sont allés en Érythrée. Alors, c'est toujours intéressant, alors, moi, qui ai été pendant 17 ans de ma vie diplomate détaché au Quai d'Orsay, je me passionne pour ce genre de voyage officiel parce qu'il faut regarder ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que les Chinois peuvent bien aller faire en Érythrée ? C'est un pays failli, d'abord, hein, une dictature terrible. Donc, normalement, un pays communiste devrait au contraire soutenir les peuples contre les dictateurs, mais là, c'est une terrible dictature, l'Érythrée. Et ce qui intéresse les Chinois, c'est que finalement, l'Érythrée empêche l'Éthiopie d'accéder à la mer Rouge, hein, depuis son indépendance, et par contre a des ports sur la mer Rouge. Donc, puisque avec l'Éthiopie, il n'arrive pas, sauf le chemin de fer de Djibouti, à avoir une ouverture sur la mer, eh bien, en passant des accords avec l'Érythrée, qui a besoin d'aide, hein, parce que c'est un pays quasiment sous sanction occidentale, eh bien, en passant des accords avec l'Érythrée, ils auront ce pied sur la mer Rouge. Et on peut imaginer, parce qu'on nous apprend, hein, quand on entre un peu dans la diplomatie, on nous apprend à faire des anticipations, à écrire les scénarios de ce qui pourrait se produire, eh bien, il pourrait se produire que quand vous êtes à Asmara, je crois que c'est la principale ville d'Érythrée, vous n'êtes pas du tout loin de l'Éthiopie, hein, et que ce serait plus court, finalement, de passer par Asmara pour regagner la mer Rouge le jour où les routes de la soie auront fait quelques progrès supplémentaires. Alors, conclusion générale. J'aurais pu, si vous étiez des étudiants de l'Université de Poitiers ou de Sciences Po ou Bordeaux, j'en aurais pris un ou deux, j'aurais dit, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Eh bien, je crois que ce que l'on peut retenir, c'est le mouvement « je vais chercher des matières premières », hein, et je m'infiltre chaque fois que je le peux en Afrique, et puis, en contrepartie, je pourrais distribuer, par le même voyage, hein, des produits finis, mais pas sûr, parce que ce n'est pas un gros marché de consommation en Afrique. Donc, les matières premières, c'est surtout ça dont j'ai besoin. Elles vont me servir à faire des produits finis qu'on peut fabriquer, si on veut, en Éthiopie, pour le moment, hein, et on va multiplier les zones économiques spéciales le plus possible. Mais surtout, les produits que je vais faire avec mes matières premières, je les vendrai sur le marché européen ou américain, et surtout sur le marché européen pour le moment, parce que vous avez remarqué, j'ai encore dessiné aucune route de la soie vers l'Amérique, ni du Nord, ni du Sud. Et donc, on peut, si l'on veut, parler d'une forme de néocolonialisme, hein, mais absolument légal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conquête brutale, il n'y a pas de violence, il y a simplement des accords parfois avec des régimes dictatoriaux, mais tout se fait non seulement dans la légalité, mais dans le respect des règles du capitalisme, puisque la Chine est membre de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et surtout de l'Organisation mondiale du commerce. Et ce sur quoi on pourrait la critiquer, c'est qu'elle ne prête pas beaucoup d'importance à la défense des droits de l'homme. C'est ce qui est écrit dans ce livre que je vous recommande, « Prisonnier de la géographie », qui est très bien fait, où l'auteur dit que la Chine n'est ni guidée ni entravée par les droits de l'homme. Ni guidée ni entravée par les droits de l'homme. Je crois que c'est la bonne définition que l'on peut faire, hein, puisqu'elle ne va pas défendre les peuples et elle n'est pas gênée par les atteintes aux droits de l'homme. Mieux ou pire, chaque fois qu'il y a au Conseil de sécurité une décision à prendre allant dans le sens justement de la défense des peuples opprimés, on a toujours deux vétos qui sont la Chine et la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur qu'un jour on détourne le regard vers eux en disant « mais au fait, et chez vous, comment ça se passe ?» Alors pour le moment, on a le bon goût, hein, ou l'hypocrisie de ne pas voir. Vous savez, on a parfois des œillères, hein, on a une vision latérale qui est très limitée, mais ça pourrait un jour se produire. Alors pour finir sur la question que j'ai posée en tout début d'exposé, les routes de la soie s'inscrivent forcément dans le temps long. Vous imaginez bien que pour recouvrir le monde, hein, une mandature ne suffit pas. Eh bien, il a modifié la constitution en 2018, Xi Jinping, et il pourrait être président à vie. C'est bien. Ce qui me permet d'introduire ce livre sur les 30 empereurs qui ont fait la Chine et dont la page de couverture est simplement Xi Jinping lui-même. Xi Jinping lui-même, ce livre a été publié en 2018. Alors, que sera le monde dans 20 ans? Parmi vous, j'en vois certains, moi le premier d'ailleurs, me dire, moi dans 20 ans, je pense que je ne serai pas là pour le voir, mais on a quand même des enfants, des petits-enfants, et même parfois des arrière-petits-enfants, eux, ils le verront. Eh bien, on aurait peut-être été bien inspiré déjà de lire en 1973, quand la Chine s'éveillera, qui a été mis à jour en 1981. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on peut, dont on peut conseiller la lecture, c'est cet ouvrage avec une petite astuce de titre, hein, « La Chine et le monde », parce que, d'une certaine manière, si le programme Belt and Road Initiative aboutit, on aura bien un recouvrement de la planète par un système capitaliste dirigé par le Parti communiste chinois, ce qui sera un extraordinaire paradoxe, mais qui est tout à fait possible. Et pour vraiment terminer, si vous voulez compléter par des lectures faciles, vous avez ces fameux hors-série du monde hein, que je recommande souvent, hein, parce que c'est des cartes qui sont souvent bien faites et un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, comme disait, je crois, Napoléon. Donc vous avez 40 cartes dans ce hors-série du monde, qui n'est plus en librairie, hein, mais qu'on peut commander sur Internet, qu'on peut commander en librairie si on veut faire vivre les libraires, et qui nous aide effectivement à comprendre la Chine, les routes de la soie, en dehors du simple sujet que j'ai traité aujourd'hui, c'est-à-dire l'Afrique. Et maintenant, je vous remercie de votre attention.
Bon, alors, je suis sûr, il ne faudrait peut-être pas y avoir beaucoup de questions, mais est-ce que, en tout cas, on peut déjà vous en poser une, celle que vous attendiez peut-être, c'est-à-dire, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça?
Je ne saurais pas vous répondre, hein, parce que...
qu'est-ce qui peut empêcher la Chine de persévérer dans cette voie? Quels obstacles, c'était ça la question, pourrait rencontrer?
Alors, les obstacles que peut rencontrer la Chine sont pour certains des obstacles structurels. C'est un pays qui manque de certaines choses. Alors, c'est bien pour ça qu'il va les chercher, mais qui, en ce moment, si on suit bien l'actualité, manque en particulier de sources d'énergie. C'est pour ça que l'essence est si chère, hein, et le gaz. Parce que l'économie chinoise a été considérablement ralentie par le manque d'approvisionnement en pétrole et en gaz, et continue à être demandeur, et n'en possède pas, sur son territoire, ne possède pas ni pétrole ni gaz. Alors, comme on disait à midi, la Chine pourrait aller chercher le pétrole et le gaz chez le fournisseur qui est le plus proche, le producteur qui est le plus proche d'elle, qui est la Russie. Et ça, c'est très intéressant, parce que si la Chine décide d'aller se servir chez les Russes, elle a deux méthodes. Ou bien elle le fait légalement et achète le pétrole et le gaz, ou bien elle actionne quelques revendications anciennes sur les zones frontalières chinoises qui sont actuellement russes et qui sont également producteurs de gaz et de pétrole, et surtout de gaz, en disant « mais ça, au fait, c'est à nous ». Et ça nous intéresse parce que justement on a besoin de pétrole et de gaz. Autrement dit, une tension internationale, et là on passe sur le conjoncturel, hein, une tension internationale qui pourrait nous arranger d'une certaine manière, parce que nous on se ravitaille pas, sauf en gaz, mais en pétrole on se ravitaille pas chez les Russes, et qu'on pourrait donc observer, non pas d'un œil amusé, parce qu'on peut rien regarder d'un œil amusé, mais d'un œil un peu soulagé pendant un temps. Ça c'est une hypothèse. Second handicap de la Chine, sa démographie. Si vous regardez la pyramide des âges de la Chine, elle n'est pas aussi catastrophique que la pyramide japonaise, hein, ou que la pyramide allemande, hein, même un peu française, mais enfin surtout allemande, c'est-à-dire une part de population active qui sera à terme inférieure à la population dite dépendante, c'est-à-dire les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, en gros, hein, c'est-à-dire la population qui dépend des actifs, et là, la Chine va se trouver en difficulté. Là encore, il faut modérer le propos en soulignant d'abord que l'espérance de vie des Chinois est plus courte que la nôtre, et donc que les dépendants ont besoin d'être aidés moins longtemps. Ensuite, que ces dépendants coûtent moins cher aux actifs parce que ils n'ont pas notre système social, loin s'en faut. Hein. Nous, ce qui coûte cher aux actifs, c'est nos retraites. Hein. Et puis tout le système de sécurité sociale, tout ce qui est pris en charge vraiment par l'État. En Chine, on n'en est pas là, pour le moment, en tout cas. Donc, les dépendants peuvent encore croître et les actifs rester relativement sans accroissement. Et on peut tenir encore probablement 5 ou 10 ans, surtout qu'ils ont commencé à mettre en place un système pratiquement de privatisation de l'enseignement. Hein. C'est-à-dire que l'école n'est pas totalement gratuite en Chine, contrairement à ce que l'on pense. Et c'est la solution que l'on trouve toujours quand on n'a pas assez d'argent pour fournir les services publics que l'on doit aux dépendants, c'est-à-dire au moins de 20 ans, au plus de 60 ans. Ça, c'est le second handicap. Le troisième handicap, c'est que, alors celui-là, est à plus long terme peut-être, c'est ce qu'on disait en souriant à midi, qu'on résume d'une phrase, que ne la prenez pas pour péjorative, elle est humoristique, c'est si on délocalisait la CGT. À ce moment-là, ça serait très intéressant parce que les travailleurs chinois prendraient conscience du fait qu'ils sont exploités, hein, qui n'ont pas de congés payés, qui ne travaillent évidemment pas 35 heures, qu'ils n'ont pas de droit à la retraite aussi intéressant que nous, qu'ils n'ont pas de couverture sociale aussi intéressante que la nôtre, enfin bref, qu'ils sont exploités. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans un pays communiste qui a fait reposer sa révolution, alors c'est vrai, en Chine, pas sur la classe ouvrière, mais plutôt sur la classe paysanne, mais enfin, qui peuvent s'inspirer quand même de ce qui s'est passé en Russie. Et il y a peut-être un jour où les travailleurs chinois se révolteront ou bien grogneront un peu contre leur système. À partir de là, leurs produits deviendront moins compétitifs. Hein. C'est le coût de production dont on souffre en France, par exemple, et en Europe en général, c'est vient du fait que la main-d'œuvre est chère. Si la main-d'œuvre est de plus en plus chère en Chine, eh bien, je ne dis pas qu'on va s'aligner, mais leurs produits deviendront de moins en moins intéressants. Ça, c'est le troisième handicap. Puis le quatrième handicap, mais là, on frôle presque les jupons de l'utopie, c'est qu'il y ait une nouvelle révolution, une révolution globale. Hein. Soit globale, soit venant de certaines zones. Alors, les Ouïghours, ce n'est pas la peine, ils ont été écrasés dans le champ et ne se révolteront pas, mais il peut y avoir des révoltes urbaines. Hein. On y pense parfois quand on entend la manière dont Pékin est capable de confiner une ville comme Xi'an, par exemple, hein, ou d'autres. Hein. J'entendais qu'une métropole de 13 millions d'habitants avait été confinée. Le confinement à la chinoise, ce n'est pas le nôtre. Hein. Vous en avez entendu parler, sans doute. Là il n'est pas question que vous sortiez. Vous avez à chaque coin de rue des commissaires du peuple, d'où l'intérêt du système soviétique, des commissaires du peuple qui sont l'équivalent des délateurs qu'on a pu avoir pendant le confinement, vous en avez connu comme moi, hein, qui me mouchardaient comme ils me voyaient sur la plage d'Arcachon parce que je n'avais pas le droit d'y aller, qui téléphonaient à la police, donc la police venait me cueillir. Donc nous, on n'a pas de commissaires du peuple, mais on a des gens qui signalent tout ça. Donc là-bas, ils en ont peur et ils ne bougent pas. Est-ce qu'on peut quand même longtemps confiner 13 millions de personnes dans le monde d'aujourd'hui, alors que nous, en France, on est incapable de le faire. On ne va jamais recommencer à confiner la France. Je ne sais pas. Alors, on disait dans notre discussion, la culture, la mentalité chinoise fait qu'on obéit aux ordres, qu'on respecte absolument les règles, qu'on ne se révolte pas contre ça. C'est très possible. Alors, combien de temps ça va durer? Parce qu'avec les réseaux sociaux, même si beaucoup d'entre eux sont fermés, hein, il n'y a pas d'imperméabilité totale. Hein, y a beaucoup de choses qui entrent. Hein. Moi, je suis allé en Chine la dernière fois, il y a 3 ou 4 ans, je crois. Bon, c'est clair que beaucoup de jeunes réussissaient à contourner le blocus sur les réseaux sociaux et voyaient très bien ce qui se passait quand même en Occident. Donc, progressivement, il est possible que cette...
Si vous prenez Hong Kong, ils savent aussi réprimer les mouvements de la jeunesse.
Ah oui, oui, ah oui, non, mais...
Et là, ça ne s'est pas fait, ça s'est pas fait avec des commissaires politiques, là.
Oui, c'est vrai. Alors, là vous êtes en train d'introduire un autre élément qui, malheureusement, va dans l'autre sens, c'est que tous les capitaines d'industrie chinois, parce que quand on dit les Chinois, c'est des entreprises chinoises, hein, dont beaucoup sont des entreprises privées, hein. Tous les capitaines d'industrie chinois sont très contents du système, parce que c'est tranquille. Hein. Il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ils feront des affaires tant que le système sera aussi répressif. Et donc, eux, ils sont plutôt, j'allais dire, du côté du manche. Alors, ce sont ceux qu'on connaît, nous, hein, ceux qui achètent nos châteaux viticoles. Hein. Alors, ils ne sont pas si nombreux que ça, hein, faut pas exagérer, ils sont une petite poignée, et puis ça dure pas longtemps, ils disparaissent, ou bien ils se font mettre en prison chez eux parce qu'ils sont devenus trop riches. Bon, ça, c'est pas... Et donc, je terminais finalement sur une contre-note en me disant le fait que le capitalisme soit servi par des capitaines d'industrie qui sont, comme toujours, hein, comme des grands chefs d'entreprise, plutôt partisans de l'ordre et de la stabilité, fait que la révolution que l'on évoquait... n'est peut-être pas pour demain.
Alors, une seule question. Il y en a une ? Oui, vas-y.
Vous n'en avez dit que deux mots, mais plus de l'extension donc de route de la soie de l'autre côté, c'est-à-dire l'Amérique centrale, par exemple, l'Amérique latine, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air ?
Alors, il va falloir que je creuse vraiment ce sujet parce que c'est une question qui m'a déjà été posée il y a 3 jours. Et l'intervenant a même complété sa question en me disant, ce que je ne savais pas, que la reconstruction du canal de Panama avait été largement financée par les Chinois et que ça pouvait être la possibilité pour eux, parce que quand vous sortez du canal de Panama, vous descendez un petit peu vers le sud-est, et vous cognez sur la côte occidentale de l'Afrique. Alors, ils sont présents. J'ai quand même commencé à creuser depuis avant-hier. J'ai vu qu'en Guinée équatoriale, qui est une autre grande dictature africaine, ils sont également présents. Et la Guinée équatoriale les intéresse beaucoup parce que c'est un producteur de pétrole. Et alors, pour le moment, ils auraient du mal à faire venir le pétrole de Guinée équatoriale parce qu'il faut contourner complètement l'Afrique pour aller en Chine, mais par le canal du Panama, si ça leur vient à l'esprit, ils pourront effectivement passer. Alors, comment ont-ils grignoté ou comment grignotent-ils soit la partie Amérique latine, soit la partie Afrique de l'Ouest? Là, j'avoue qu'il va falloir que je creuse la question.
Bon, très bien. Oui, alors... Alors, une, et puis, voilà.
Canal, ils avaient essayé de ressortir le projet de canal par le Nicaragua, le Grand Lac, dans une région qui est extrêmement sismique, mais il y a une dizaine d'années, les Chinois s'étaient intéressés, à ce moment-là, non pas au canal de Panama, mais à un concurrent du canal de Panama, par le Nicaragua.
Merci, ça va m'aider.
Et il y en avait une là, oui, allez.
Je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par extension continentale.
Dans la mer de Chine, oui. Il y a les 270 milles, vous avez parlé, et après, quand ça remonte en extension continentale, ils revendiquent que ça compte comme appartenant à leur pays, et du coup, la mer de Chine, ils réclament leur possession grâce à cette extension continentale, et du coup, s'ils arrivent à changer la législation et qu'ils arrivent à dominer la mer de Chine, est-ce qu'après, la Russie va faire valoir les mêmes droits pour
l'Afrique. Oui, là...
J'avoue que je ne suis pas, je n'arrive pas à suivre, parce que moi j'ai des cartes dans la tête, vous voyez, j'essaie de cartographier votre mer de Chine, et je ne vois pas où est l'extension continentale en mer de Chine, et ni le rapport avec la législation. Vous pouvez préciser ?
Il me semble que, en fait, la Chine revendique, il y a les 270 qui sont à partir du littoral de la Chine.
Les 200 000 marins, oui.
Quand ça remonte,
oui.
Donc c'est ce qu'ils appellent l'extension continentale, il faut qu'ils réclament plus, et du coup, ça va bouleverser la mer de Chine, puisque les autres pays autour, eh bien, on leur grignote, puisque eux, ils ont plus que les 270, d'après ce qu'ils réclament. Ils veulent changer la législation par rapport à ça, et du coup, ça peut déstabiliser la région, et après, la Chine va faire la même chose avec la Chine.
Ah, oui, mais alors, je ne savais pas qu'ils voulaient changer la législation sur les 200 000 marins de la ZEE, je ne savais pas, c'est... Moi, je viens aussi dans les régions comme Sarlat pour apprendre. Je ne le savais pas. Hein, mais c'est...
Bon, alors...
Non, mais vous avez peut-être raison. Moi, je vous ai parlé des 200 000 marins parce que les 200 000 marins, c'est 370 kilomètres de zone économique exclusive. Ça, c'est universel. Hein, ce n'est pas les Chinois qui l'ont inventé, ni nous. Hein. Pour le moment, ils le respectent. Maintenant, si vous me dites... qu'ils vont changer la norme, peut-être ils vont le faire.
C'est pas qu'ils veulent changer la norme, ils veulent faire valoir plus avec la remontée continentale et du coup, bouleverser les pays qui sont là et la Russie, pareil, avec, va demander la même chose avec la Russie.
Bon, oui.
Alors,
bon,
juste, là, ça ne figure plus, mais vous avez mon adresse normalement, hein, mon adresse mail, bouquet@u-bordeaux-montaigne.fr, c'est très facile. Hein,
et vous
tout
posez...
monde d'ailleurs peut m'envoyer des questions, soit je sais répondre, ça arrive parfois, soit je ne sais pas et je me renseigne. Hein, et après, au bout d'un certain temps, je peux vous apporter une réponse. Mais ça serait bien si vous pouviez reformuler cette question.
Voilà.
Parce qu'il y a un élément que je n'ai pas bien saisi.
Oui, dans le même ordre d'idées, pour conclure, avant de vous remercier chaudement pour cette conférence passionnante, mais j'ose dire quand même un peu inquiétante pour notre avenir, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, parce que vous allez nous faire, comme vous savez si bien le faire, un petit compte-rendu de cette conférence que nous lirons avec beaucoup d'intérêt et qui nous rappellera ce que vous avez dit, pourriez-vous y joindre, s'il vous plaît, les références des livres que vous nous avez chaudement conseillés, parce que je pense que ce sera utile pour nous. Voilà. Donc, et on vous remercie infiniment. Et on souhaite vous accueillir sur